Connaît-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, il est tout juste midi et des poussières, l'heure de passer un petit moment ensemble en direct sur le 107 de la bande FM ou via les internets sur radiobarthas.net. Et aujourd'hui on va continuer de s'intéresser à la très riche programmation du festival Vue du Québec qui a pris possession de la ville de Florac depuis mardi ainsi que de cette radio. On en parle tous les jours mais c'est parce qu'il y a plein de choses à dire et ce festival québécois nous permet aussi de voyager en dehors du Québec, en Haïti par exemple. Plusieurs films programmés ont des liens avec Haïti cette année, notamment les deux films de Maryse Le Gagneur, Le Dernier Repas, film de fiction qui est passé hier soir, et son documentaire Au nom de la mère et du fils qui est passé ce matin. Et puis il y a le film À travers ses yeux de Fabiola Pierre-Monti et Brigitte Poupard qui sera projeté lui samedi à 18h à la Jeunette Verte. Bande annonce.
Haïti.
Ouais, c'est ton pays ça?
Oui.
Mais avec qui t'étais en Haïti, toi?
Avec maman.
Avec maman?
J'ai jamais cherché à rencontrer ma mère biologique.
Allô, Fabiola! Ça va bien?
Mais j'ai toujours voulu savoir à qui je ressemblais.
Bye!
De remettre un visage à la personne qui m'a donné naissance.
Tu veux faire quoi, Fabiola?
Sans savoir si je vais rencontrer ma famille biologique, je vais à la découverte du pays qui m'a vu naître. J'observais le pays en me disant que ça a déjà été le mien.
Et je suis ravie de recevoir justement dans le studio de Radio Barthas Brigitte Poupard et Fabiola Pierre-Monti. Bonjour à toutes les deux, bienvenue.
Bonjour.
Alors, je dois vous dire que j'ai pas encore vu le film, j'irai le voir samedi. Donc, si mes questions manquent de pertinence, je m'en excuse, n'hésitez pas à me recadrer si jamais. En tout cas, je suis très très curieuse. Je trouve que votre film semble aborder tellement d'enjeux, toucher à tellement de sujets, c'est vraiment riche. Il y a d'abord la dimension très intime de ce projet. Et donc, pour ça, il faut avant tout commencer par vous présenter parce que vous êtes donc toutes les deux mère et fille. Fabiola, tu es la fille adoptive de Brigitte. Et Brigitte, tu es la mère adoptante de Fabiola. Fabiola, tu es née en Haïti, on l'entend dans la bande-annonce. Tu es arrivée au Québec à l'âge de 3 ans. Première question, étais-tu retournée en Haïti avant de t'y rendre pour la fabrication du film?
Non, c'était la première fois, dans le fond, quand on y retourne. C'est vraiment une découverte du pays en même temps, que, autant pour moi que pour les gens.
Parce que c'est une démarche très intime que tu as faite là, de revenir dans ton pays d'origine, chercher ta famille biologique. C'est vraiment quelque chose de très, voilà, qui t'appartient aussi à toi. Je me demande comment est-ce qu'on fait le choix de vouloir documenter un tel voyage et d'assumer de le faire avec une caméra et de le vivre pour soi, mais aussi donc pour plein d'autres personnes. Comment est-ce que t'en es venue à vouloir faire cette démarche?
L'idée initiale, dans le fond, c'est Brigitte qui l'a eue. Vers environ 18 ans et un petit peu avant, j'allais pas trop bien. Donc, je pense qu'elle a senti quelque chose. Peut-être que ça avait rapport justement avec mon identité ou quoi que ce soit. Donc, elle m'a proposé de retourner en Haïti. Et justement, que moi, je filme mon retour. Et le fait d'avoir la caméra, justement, pour moi, ça, c'était plus facile, vu que c'était une façon de me protéger un peu, d'avoir un petit bouclier, puis pas être trop dans l'action ou qu'on me regarde un peu. Donc, pour moi, la caméra, c'était important.
On va revenir après sur la place de la caméra. Et Brigitte, pour toi, qu'est-ce que ça impliquait de proposer ça à Fabiola, de faire ce voyage en le filmant?
Mais en fait, c'est très important pour le développement, l'épanouissement de quelqu'un, de savoir d'où on vient, qui on est, est-ce qu'on a été aimé et tout. Et pour moi, je sentais qu'il manquait, qu'il y avait une page blanche pour Fabiola, de 0 à 3 ans. Donc, il fallait aller écrire cette page blanche. Il fallait aller trouver l'histoire qui lui manquait. Et pour moi, c'était très important parce que c'est notre job de parents, en fait, d'accompagner pour que nos enfants soient heureux dans la vie, s'épanouissent. Fabiola a un talent inné pour la photographie. C'est une cadreuse naturelle. Et donc, pour moi, c'était une façon, à travers l'art, peut-être de sublimer justement ce qui est les peurs, les craintes, les et ce qu'elle cherchait. Donc il y avait un projet au bout de ça. Et donc c'était pas juste on va en Haïti, mais on en fait un projet. Donc et je trouvais ça important que ça soit elle qui cadre le retour, c'est-à-dire que ça soit à travers ses yeux à elle et qu'elle choisisse ce qu'elle veut voir pour son retour en Haïti, puisqu'elle est née là-bas. Donc, c'est pas un regard touristique ou un regard de blanc, en fait, sur Haïti, ou comme on a l'habitude de voir, en fait. Donc, c'est vraiment le regard de quelqu'un qui est né là-bas.
Et donc, un des objectifs du film, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais c'était aussi quand même d'essayer, peut-être, on l'entend dans la bande-annonce, je crois, tu ne savais pas si tu allais retrouver ta mère biologique, Fabiola, mais c'était une possibilité, en tout cas une des quêtes de ce voyage.
Oui, initialement, l'idée, c'était vraiment de retourner voir le pays qui m'a vu naître. Et par la suite, quand on était en Haïti, justement, on a reçu la confirmation. On a fait des tests d'ADN aussi, que c'était vraiment ma famille biologique. Donc, par la suite, c'est devenu aussi une rencontre familiale. Mais sinon, initialement, c'était vraiment une idée de retourner voir un peu d'où je viens.
En fait, c'est ça, c'est qu'il est arrivé une synchronicité assez extraordinaire et qu'on pourrait presque voir en fiction, mais là, c'est arrivé dans le réel. C'est-à-dire qu'au moment où on a entrepris les démarches pour faire le film et qu'on a rencontré l'équipe haïtienne, parce qu'on voulait avoir une équipe haïtienne aussi sur le tournage, au même moment, j'ai reçu un message d'une dame qui avait été l'entremetteuse, en fait, qui s'était chargée de l'adoption de Fabiola et qui nous laissait un message comme quoi la mère biologique de Fabiola la cherchait au même moment.
C'est incroyable.
C'est assez incroyable, oui.
C'est fou.
Et donc, ça a fait bifurquer le film parce que, comme Fabiola l'explique, au départ, nous, c'était d'aller voir le pays et de rencontrer des protagonistes, des jeunes filles de son âge. Parce que Fabiola a posé une question aussi qui est devenue vraiment fondamentale pour le film. C'est qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'étais restée en Haïti? Donc, on rencontrait des jeunes filles de son âge pour voir un peu, pour qu'elles puissent se projeter dans différentes histoires. Mmh. Et là, après, quand on a su que la famille biologique voulait la rencontrer, ben là, ça a dévié un peu, mais pour le mieux, en fait.
Oui, j'imagine. Et donc, qu'est-ce que ça t'a... Parce que ce film, donc voilà, c'est la découverte d'un pays pour toi. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as trouvé? Et tu as rencontré donc ces jeunes filles en te projetant, en te disant que tu aurais pu avoir cette vie-là. Ça devait être d'un chamboulement quand même assez vertigineux. Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé?
Oui, c'est sûr que c'était des suppositions, donc on ne sait jamais vraiment qu'est-ce que ma vie aurait été. Mais sinon, c'est étrange justement parce qu'il y a beaucoup de chance aussi. Ça se peut que j'aurais pu finir justement comme une de ces filles qu'on rencontre. Donc c'est étrange d'écouter leur histoire, mais aussi de peut-être me projeter aussi, que j'aurais peut-être pu justement être une de ces jeunes filles.
Oui, c'est... Après, c'est bouleversant, d'autant plus, même si on peut se dire ça pour tout dans la vie, si j'avais pas fait ça, ma vie aurait été comme ci, ma vie aurait été comme ça. Mais là, c'est vrai qu'il y a un moment un peu originel, très fort, quand il s'agit d'adoption, où on peut imaginer plein de choses. Donc et j'ai lu aussi que justement, parce que c'est chamboulant, on imagine vraiment à quel point, et que donc il y avait, et elle intervient aussi dans le documentaire, une psychologue qui justement était là pour élaborer un peu toutes ces questions qui pouvaient traverser.
C'est un homme, c'est un psychologue.
Un psychologue, pardon.
Qui est spécialisé dans les recherches identitaires. Donc, il a travaillé avec beaucoup de nations autochtones. Il est lui-même chilien, je pense, d'origine. C'est vraiment un fil rouge, en fait, dans le film, parce qu'il nous explique de façon très... comment je peux dire ça? Il vulgarise très bien, en fait. Il nous explique très bien ce que ça implique, ce que ça veut dire, et pourquoi il y a des malaises identitaires, et comment ça se répercute aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire avoir de la difficulté à se projeter dans l'avenir, à savoir qui on est, ce qu'on veut, et les relations avec les autres. Parce qu'il nous manque ce bout de l'histoire qui est fondamental, qui détermine beaucoup qui on est dans la vie. Et il y a des... il y a des façons d'être aussi quand on est très petit, dans la petite enfance, qui déterminent aussi qui on est à l'âge adulte. Et donc, si on ne sait pas qui on a été dans la petite enfance, comment on était, c'est difficile après de se percevoir avec les autres, aussi d'être dans le monde. Et c'est ce qui fait, en fait, qu'à un moment donné, les gens qui ont été adoptés ont ces grands questionnements existentiels et tout à fait légitimes, c'est-à-dire qui suis-je
et d'où viens-je. Et en plus, c'est un pays, Haïti, où la vie n'est pas simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même beaucoup de choses très difficiles qui affectent ce pays, sans parler des catastrophes naturelles, mais voilà, la gouvernance politique depuis si longtemps, finalement. C'est un pays qu'on pourrait quand même dire, la vie est dure, difficile. Comment ça s'est passé pour toi à ce point de vue-là, ou pour vous? Je ne sais pas quel était le contexte politique quand vous avez fait ce voyage. Est-ce que c'était... qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Fabiola?
Dans le fond, le voyage. En fait, le projet a été retardé à plusieurs reprises, justement, dû à la situation. Et quand on a pu y aller, c'est qu'il y avait une trêve de violence d'environ 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, c'était vraiment des petites fenêtres pour y aller. Donc, quand on était là-bas, on était bien entourés. On avait notre équipe, justement, haïtienne aussi avec nous. Mais je pense qu'on n'était peut-être pas assez consciente des dangers ou des risques qu'il y avait, justement, vu qu'on était assez bien entourés. Mais... C'est sûr qu'il y a une tension, on le sent quand même.
Oui, c'est très dangereux. Les gangs ont pris possession du pays. Et donc, comme Fabiola disait, quand on a essayé d'y aller, on s'est fait annuler le voyage 4 fois parce que le gouvernement canadien ne voulait pas que les gens voyagent en Haïti. Alors, on a profité de cette fenêtre de trêve. L'équipe haïtienne nous a dit, c'est maintenant qu'il faut venir. On a tourné, en fait, Fabiola a laissé la caméra ouverte de 5h du matin à minuit soir. Et donc, pour rencontrer les protagonistes, on avait un policier en civil avec nous, 24 heures sur 24. Et lui négociait nos passages pour aller rencontrer des gens dans des lieux précis. Donc, la veille, il partait, il allait négocier avec les gangs de rue pour qu'on puisse avoir accès. Mais ces gens-là ils peuvent changer d'idée à tout moment. Donc, ils étaient très nerveux pour nous, mais ils ne nous le montraient pas. Et donc, c'est plus au retour qu'on a pris conscience, en fait, du danger qu'ils avaient pris, eux, aussi, pour nous accompagner, et que nous, on a pris. Et d'ailleurs, il a fallu prendre une assurance kidnapping et rançon, ce qui est assez rare dans une vie. Donc, ça s'est bien passé, il ne nous est rien arrivé, mais je pense qu'on avait une bonne étoile, et je pense que la mère biologique de Fabiola voulait tellement que cette rencontre ait lieu, qu'elle aussi, je pense qu'elle a contribué à ce que ça se passe bien.
Oui. Et donc, cette rencontre, on la voit dans le film. Oui. Donc, oui. C'est bizarre parce qu'à la fois, je ne veux pas trop dévoiler pour les personnes qui nous écoutent, qui iraient voir le film, et à la fois, j'ai envie de te demander comment ça s'est passé, cette rencontre avec ta mère biologique.
Oui, c'est assez étrange. On sait que je n'ai pas de mots exacts pour le décrire, mais dans le fond, pour moi, c'est ça, le temps s'est arrêté un peu parce que j'ai devant moi la personne qui m'a donné naissance, que je connais pas du tout, mais que j'ai un lien fort avec. Donc, c'était beaucoup dans l'observation puis dans le toucher. Et aussi, vu qu'elle parlait seulement créole, je comprenais pas du tout ce qu'elle me disait. Donc, il y avait un petit malaise aussi, en fait, un gros malaise. Mais donc, c'était vraiment dans le regard, dans le toucher, puis c'est ça, le temps s'est arrêté. Donc, je pourrais même pas savoir combien de temps ça a duré. Tout ça fait que c'est un moment très intime.
J'imagine que pour toi aussi, Brigitte, ça devait être un moment bouleversant.
Oui, c'est bousculant. Ben, C'est bouleversant dans le sens que moi, j'étais très heureuse qu'elle se rencontre. Et je trouve que c'est un beau cadeau de lui avoir fait ça, de lui avoir permis de rencontrer sa fille. Parce que j'ai pensé à cette femme-là, moi, toutes ces années, à chaque fois que c'était l'anniversaire de Fabiola, j'avais une pensée pour elle. Et je ne savais pas du tout dans quel contexte elle avait donné sa fille, par contre. Donc, ça aurait pu être dans un contexte dramatique, tragique, parce qu'on sait qu'il y a des enfants aussi issus de viols et tout ça. Donc, les mères ne veulent pas nécessairement revoir leurs enfants. Dans son cas, ce n'est pas ça du tout. Donc, je sais qu'on lui a fait un beau cadeau et qu'on a réparé quelque chose. Et ça, pour moi, j'en suis très, très, très heureuse.
On va quitter un peu donc la sphère très intime de ce film parce que j'étais aussi curieuse de la fabrication. Donc Fabiola, toi tu avais une caméra, tu cadrais, tu filmais, mais vous avez aussi mentionné une équipe haïtienne. Il y a aussi, j'ai vu dans la bande-annonce, des images où on te voit toi caméra à la main, donc ça sous-entend qu'il y a d'autres personnes aussi qui filment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu voilà, qui filmait, qui, quand, comment?
Ben, Fabiola est la directrice photo. Décide un peu de comment l'esthétique du film, si on veut. Et on avait un deuxième caméraman, Tranquillin, qui a fait Cine-Institut, la seule école de cinéma qui a existé en Haïti, qui est fermée malheureusement à cause de la situation, qui n'existe plus. Et donc, ils étaient très heureux de pouvoir faire du cinéma, parce qu'ils n'en font pas. Lui, caméraman, filmait Fabiola en train de filmer. Et aussi, parce qu'on avait très peu de temps, ben ça nous permettait d'aller chercher d'autres images aussi du pays. Donc, lui pouvait aussi prendre des images qui nous ont servi aussi beaucoup après pour la construction du film, toujours sous la direction de Fabiola. Et ensuite, il y avait une assistante caméra qui avait aussi étudié au Cine-Institut avec nous. Il y avait le fixeur, c'est-à-dire celui qui trouvait les protagonistes et qui organisait tout, qui est haïtien aussi. La production, leur équipement aussi, c'était d'un bureau en Haïti. Et le preneur de son était québécois. Et c'est la seule personne qu'on a amenée du Québec avec nous.
Et après, pour le montage, du coup, vous avez supervisé ensemble, vous étiez impliquée, toi aussi, Fabiola, jusqu'à la fin, quoi, processus de montage aussi, de retour.
Pour moi, dans le fond, d'être présente, c'était important, vu que c'est mon histoire. Donc, je tenais quand même à avoir mon avis, et autant, justement, dans la colo que dans le mix sonore, vraiment, toutes les étapes, on les a faites ensemble, vu que c'est un projet à deux, mais c'est aussi... notre histoire avant tout, donc c'était logique que ça soit fait ensemble.
Et le résultat vous ressemble, te ressemble, Fabiola, te ressemble, Brigitte, vous êtes...
Je pense que oui, je pense qu'il y a quand même il y a toujours des petits trucs qu'on aurait aimé ajouter ou changer, quoi que ce soit, mais je pense que avant tout, toute la démarche qu'on a faite, c'est tellement gros que même le résultat, je pense même si le film n'était pas sorti, ça reste quand même un beau projet personnel et... qui a fait grandir.
Mais d'ailleurs, j'imagine qu'au début, vous n'étiez pas forcément... Enfin, pendant la fabrication, on n'est jamais sûr que le film arrive au bout d'en voir la fin. Donc, en fait, tout ce travail-là, il a été nourrissant, même si voilà, le film n'avait pas existé. C'était la démarche qui était
primordiale. Oui.
Et alors, j'ai appris hier, parce que je suis allée voir le film donc, de Maryse Le Gagneur, Le Dernier Repas. Il y a une petite discussion à la fin du film et j'ai appris, je ne savais pas qu'il y avait vraiment une très, très importante communauté haïtienne au Québec, à Montréal. Et ça, je ne savais
c'est
pas.
C'est la deuxième plus grande diaspora haïtienne au monde, au Québec, oui.
Et donc, je me demandais si vous aviez eu des retours particuliers des personnes d'ascendance haïtienne qui auraient vu le film ou si vous avez organisé des projections spécifiques pour les personnes d'ascendance haïtienne.
Oui, il y a certaines personnes justement haïtiennes qui sont venues voir et la majorité disait justement qu'ils retrouvent le pays dans lequel ils ont grandi ou qui ont vu. Souvent, c'était des personnes plus âgées aussi, donc ils étaient contents de retrouver une vérité. Et on a une projection aussi à la Maison Haïti, principalement des Haïtiens, prévue très prochainement. Donc, c'est aussi j'ai hâte de voir leur retour.
Oui, on a eu une projection test aussi avec 6 jeunes hommes haïtiens, parce que comme c'est majoritairement des femmes dans le film, parce que la place des femmes est très importante aussi dans les thématiques, et Ils étaient vraiment chamboulés, en fait, de voir une parole se libérer et d'entendre ces jeunes femmes-là parler à visage découvert et dire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc, ça les a confrontés, mais d'une bonne façon. Et ils étaient très heureux de voir ça et de voir aussi que Fabiola dépeint aussi un pays digne. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas montrer que la misère, mais montrer aussi la part de beauté et de résilience du peuple haïtien. Et donc, ça aussi, ça les a touchés beaucoup. Et ensuite, et c'est grâce à eux, en fait, que Fabiola a écrit sa narration, parce qu'ils l'ont beaucoup, ils lui ont beaucoup demandé comment elle se sentait, parce qu'on entend d'autres jeunes femmes. Donc, après, à la fin du film, ils ont dit, « Mais toi, Fabiola, on veut t'entendre, toi. » Et comme ça est arrivée la narration de Fabiola.
La voix off, c'est-à-dire. Ouais, ouais. OK. Ah, j'ai hâte de voir ce film, parce que du coup, il y a plein de questions que je n'ai pas posées parce que je passe à côté vu que je ne l'ai pas encore vu. Mais en tout cas, ce qu'on entend, c'est que c'est vraiment un portrait à mille facettes. C'est un portrait de toi, Fabiola, de toi aussi, Brigitte, de vous deux, de votre relation mère-fille, de ce triangle avec ta mère biologique. Et c'est aussi un portrait du pays et de tous ceux que vous avez rencontrés. Donc ça...
Oui, ouais, c'est la petite histoire dans, dans la grande histoire. Ouais.
Et j'avais une autre question. Oui, donc, parce que je ne vous ai pas non plus vraiment complètement bien présenté, mais Brigitte Poupard, bon, toi, tu es très reconnue au Canada, au Québec, en tant que cinéaste, metteuse en scène, actrice aussi. Tu as beaucoup d'expérience de métier déjà derrière toi. Fabiola, toi, c'était ton premier projet professionnel, on va dire, dans le cinéma, si je ne me trompe pas, en tant que directrice photo.
Oui, première expérience, ouais. Première fois que je touchais à la caméra aussi, donc c'est une première.
Et donc, je dis ça pour poser la question d'une éventuelle suite. Est-ce que vous allez peut-être refaire des choses ensemble ou toi seule, Fabiola ou...
Et on n'a pas de projet encore sur pied, mais c'est sûr que j'aimerais ça. Ça m'a donné l'envie aussi, justement, le fait de suivre toutes les étapes, autant de filmer que par la suite, le montage et tout. Donc, ça a éveillé un petit intérêt.
Oui, moi j'aimerais beaucoup faire un autre projet avec Fabiola, on le souhaite, oui.
Et Brigitte, il y a aussi un film de fiction à toi qui va être projeté au festival, est-ce qu'on en profite pour que tu nous en dises un petit mot?
Bien sûr, Où vont les âmes? Alors Où vont les âmes est une histoire aussi complexe, un millefeuille, comme j'aime l'appeler, en fait il y a deux grands thèmes dans ce film, il y a l'aide médicale à mourir, et les violences faites aux femmes. C'est une jeune fille de 19 ans qui est atteinte d'une maladie incurable et on lui donne que quelques mois à vivre. Et donc, plutôt que d'être soutenue par la morphine et tout ça jusqu'à la fin, elle demande l'aide médicale à mourir pour pouvoir décider comment de la fin, en fait, d'organiser sa fin. Et elle souhaite rencontrer ses deux demi-sœurs qu'elle n'a pas vues depuis 4 ans, suite à l'emprisonnement de leur père. Et leur père est emprisonné pour délinquance sexuelle, viol et tout ça, non pas sur ses filles, mais sur plusieurs femmes. Et donc, ça pose la question, en fait, des dommages collatéraux que ça crée dans une famille, dans l'intime. Et moi, je pense que l'intime est politique. Donc, c'est pour ça que les deux films que je présente sont très intimes, mais ont une portée politique. Et donc, comment ça se passe? Et je trouvais qu'on n'avait pas vu cette problématique-là sous cet angle-là, c'est-à-dire dans une famille, qu'est-ce que ça crée comme problématique? Comme Gisèle Pellicoult l'écrivait dans son livre, c'est pas dans les drames, c'est pas vrai que les drames nous réunissent, en fait, ils nous séparent beaucoup. Et on le voit d'ailleurs dans la réaction des trois filles. Elles n'ont pas du tout le même rapport par rapport à cet événement-là. Et comment on peut aimer un père qui a été un monstre? Comment on peut... Puis pour ces deux femmes aussi, comment on a pu aimer un homme qui a commis des gestes comme ceux-là et avec qui on a fait des enfants? Donc, comment on se pardonne ça, comment on s'affranchit de ça, comment on reprend aussi les rênes de notre narratif, de nos propres histoires. Et donc, ça parle beaucoup de ça, en fait, dans l'intime. Et voilà, c'est un beau film. Hein. C'est très lumineux, c'est très beau, la nature est très belle. Et puis, pour moi, il y avait ce contraste-là aussi qui était important, c'est-à-dire de montrer aussi que souvent des histoires dramatiques aussi se passent... dans des environnements aussi qui sont très beaux. Alors, on peut pas déceler non plus, dans l'anonymat, par exemple, on peut pas déceler que quelqu'un va mal nécessairement. Et il y avait aussi ce contraste à la grandeur de la nature qui est plus forte que nous et plus forte que nos anecdotes.
Tu l'as aimé ce film, Fabiola?
Oui, c'est très beau. Les aime. Oui, c'est touchant.
J'ai pas noté l'horaire, j'aurais voulu l'annoncer là.
C'est demain soir, je crois.
Demain
à 20h30.
À 20h30, ouais. À la Jeunette. Et À travers ses yeux, donc votre film à toutes les deux, c'est samedi à 18h à la Jeunette Verte à Florac. Oui. Merci beaucoup d'être passé par les studios de Radio Bartas. Et pour vous dire au revoir, j'ai choisi un morceau de musique haïtien que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Vie Vieux Nègre, qui est composé par le musicien haïtien Coupé Cloué et son groupe Le Trio Select, mais qui est repris dans la version que je vais vous faire entendre par Leila Makala, qui est une musicienne états-unienne d'origine haïtienne. Ça vous va?
Oui.
Merci beaucoup. Merci.
La vie vient née comme c'est sous crêpe soleil, même si la terre c'est pas faute malhérée. La vie vient née comme c'est sous crêpe soleil, même si la terre c'est pas faute malhérée. Là je pas fait bon, non poche malhérée. Pour nous vivre sous la terre bénie, la zone pas fait pour nos poches malhérées. Nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La vie vient qu'après sous crêpe soleil. Même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient écarter sous crêpe soleil. Même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là je pas fait pour nos poches malhérées. Nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je pas fait pour nos poches malhérées. Nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là j'en pas fait pour l'eau.
Non poche malhérée.
Mes amis, là j'en pas fait mon nénon.
Non poche malhérée.
Mes grands confélites et pensées.
Non poche malhérée.
Mes amis, là j'en pas fait pour l'eau.
Non poche malhérée.
La vie vient écarter sous crêpe soleil. Même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient écarter sous crêpe soleil. Même si la terre, c'est pas faute malhérée. Là je me pas fait bon, non poche malhérée. Nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Là je me pas fait bon, non poche malhérée. Nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. Mes amis, là je me pas fait bon,
non poche malhérée.
Les amis, là je me pas fait mon nénon.
Non poche malhérée.
Mes grands contrées, l'idée pensée.
Non poche malhérée.
Mes amis, là je me pas fait.
Non poche malhérée.
Mais comment fait l'idée pensée, oh.
Non poche malhérée.
Mes amis, là j'en pas fait pour l'eau.
Non poche malhérée.
Mes amis, là j'en pas fait mon nénon.
Non poche malhérée.
Mais comment fait l'idée pensée.
Non poche malhérée.
Non poche malhérée.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas, en direct depuis nos studios floraco-québécois toute cette semaine pendant laquelle nous faisons résonner le cinéma québécois sur les ondes du 107. Et je vous propose maintenant de faire la connaissance d'un autre réalisateur québécois invité au festival. C'est Rémi Fréchette, je l'ai rencontré hier dans le Vidéoclub de la Nouvelle Dimension.
Bonjour, mon nom c'est Rémi Fréchette, je suis réalisateur québécois spécialisé en cinéma de genre, donc films d'horreur, comédie, science-fiction, fantastique, c'est ma spécialité. Puis je réalise beaucoup de façon indépendante, donc je fais des films en dehors du circuit traditionnel de production, ce qui est une petite fierté, parfois un gros challenge, mais c'est ce qui fait qu'il y a une certaine liberté dans mes films.
Tu es aussi lié à ce qu'on appelle le mouvement Kino?
Oui, exactement. J'ai commencé à être à Kino. En fait, là, je suis entré dans le mouvement Kino à l'âge de 15 ans, donc très, très jeune. Kino, c'est un mouvement qui est né à Montréal, qui en fait, qui incite les gens à faire des films en, justement dehors du circuit traditionnel, donc sans budget, mais avec beaucoup d'entraide. Donc, quand j'étais très jeune, je suis rentré là-dedans, puis il y a des projections mensuelles. Donc, je m'étais donné le challenge à l'école secondaire, donc de faire un film par mois. Donc, pendant 4 ans, j'ai fait un film par mois. J'ai fait une 50aine de films en 4 ans. Des films qui, bon, s'écoutent très mal aujourd'hui, là, qui ont... sont pas très bons, mais disons que j'ai pu trouver mon style, j'ai pu trouver ma voix avec Kino. Puis 21 ans plus tard, je suis encore actif. Je viens de récemment faire un projet avec eux. Donc, c'est... Ouais, c'est quelque chose qui m'a formé puis qui reste très présent. C'est comme un beau terrain de pratique. On donne souvent l'exemple que les musiciens, entre les spectacles, ils vont pouvoir pratiquer avec leur band. Les cinéastes, c'est très rare entre les productions qu'on peut faire du cinéma. Donc, Kino nous offre un peu cette plateforme de pouvoir tourner en dehors des projets principaux, disons.
Mais je ne savais pas que c'était né au Québec, le mouvement Kino, parce que c'est international, on en retrouve dans tous les pays. D'ailleurs, il y en a un, il y a une journée Kino qui est organisée dans le cadre du festival samedi de 9h30 à 17h. Ça se passe ici à la Nouvelle Dimension. Mais donc, c'est né au Québec.
Oui, exactement. Donc, c'était né en 1999. C'est un groupe de cinéastes qui se sont dit « on va faire un film par mois avant la fin du monde », parce que la fin du monde était censée arriver à l'an 2000. Ils ont fait ça pendant un an, puis rendu à l'an 2000, le monde ne s'est pas écroulé. Donc, ils ont continué à faire ça et est né de ça les Kino Cabaret. C'était des activités de production. Habituellement, c'est fait en 48 à 72 heures, dépendant des lieux où c'est fait. Mais les gens doivent donc tourner, monter et projeter le film à l'intérieur de 2 ou 3 jours. Donc ça, c'est des super beaux challenges qui peuvent donner des petites pépites. Parfois, des films très mauvais, c'est ça qui est le fun, hein, parce qu'on peut essayer. C'est pas trop grave si on se trompe dans ce contexte-là. Donc, les gens peuvent vraiment explorer. Puis, au final, c'est vraiment une belle plateforme pour s'exprimer.
Là, on se rencontre donc dans le vidéoclub de la Nouvelle Dimension. Il y a des gens qui rentrent ici, ils sont un peu ébahis, ils se disent que c'est un peu obsolète, un peu désuet maintenant, un vidéoclub. Mais toi, je vois que tu as une VHS, une cassette VHS tatouée sur le bras, donc l'obsolescence, ça te parle pas tellement?
C'est les médias physiques, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va perdurer dans le temps. Les plateformes de streaming, pour moi, il y a un problème, c'est que on n'a pas les droits, donc c'est à la plateforme de décider si on peut voir ou pas le film. Il y a des films qui sont rendus introuvables parce qu'ils n'ont pas été sur des plateformes, ils n'ont pas été en format physique. Donc moi, je me fais un devoir de ramasser beaucoup de films, une grosse collection de films québécois parce qu'au Québec, on a justement des problèmes de distribution. Puis même que je dirais que l'année dernière, je me suis fait un projet, j'ai édité 10 de mes courts-métrages en VHS. Donc, j'ai produit une 100 VHS numérotée, faite à la main. Là, ça a été vraiment un projet personnel. Puis, c'était vraiment dans le but d'avoir un format physique pour ces projets-là, en fait, qui vivaient juste sur mon Vimeo, sur mon YouTube. Les gens ne vont pas nécessairement... Je ne suis pas un YouTuber, donc les gens ne sont pas portés à aller là. Donc, je me suis dit que ça donnerait une pérennité à mes films de les avoir sur un format physique. Il y a eu le challenge aussi de les couper parce qu'on se souvient que les VHS, c'était en 4:3, donc un écran carré. Mes films sont tournés souvent en 16:9, donc dans un format plus rectangulaire. Donc, il a fallu que je recoupe mes films, que je les reformate. Mais ça fait une compile de 10 films que j'ai édités en VHS. Donc, oui, j'ai une passion pour les formats physiques.
Et tu vas les vendre, ces VHS?
Oui, il y a eu un premier lancement l'année dernière, un festival à Montréal. Puis là, en fait, je fais des petits marchés pour essayer de les vendre. J'ai pas encore eu l'occasion de plus en distribuer, mais effectivement, le but de les avoir faites, c'est pour que ça se retrouve dans des mains de collectionneurs. Puis c'est vraiment fait pour des gens qui aiment ça, qui aiment ce genre de format-là. C'est sûr que c'est pas pour le très grand public. Je comprends que c'est pas tout le monde qui a un lecteur VHS. Puis j'ai offert un petit... Q-code dans la VHS. Donc, les gens qui n'ont pas le lecteur peuvent au moins aller voir le programme sur Vimeo, donc avec un lien. Donc, voilà, c'est un beau projet que j'ai fait, oui.
Et alors là, je voulais te proposer un petit jeu, profiter qu'on soit dans le Vidéoclub pour que tu nous fasses une petite sélection peut-être de 2 ou 3 films, soit des films qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué ou des films que tu aurais aimé faire toi. Tu peux prendre 5 minutes si tu veux te balader et
oui.
On peut regarder.
Oui.
Ça te va? Oui, super. Ah oui, c'est vraiment l'expérience, comment ça s'appelle, le combini, là, qui font les... oui. Là, j'ai même pas du tout exploré, je sais pas c'est quoi les sections ici. Ça, c'est du québécois, ça, ici, hein?
Ah ben, oui, par hasard.
Il y en a un peu ici. Hey, le nid, tu sais, j'ai jamais vu, c'est un film que j'ai programmé à Fantasia, ici. Il y a le logo de Fantasia, c'est moi qui l'ai programmé au festival, puis j'ai jamais vu un format physique du film. Je suis vraiment surpris que ça existe, en fait.
Oui, parce qu'on n'a pas précisé que tu es aussi programmateur de festivals de films au Québec.
J'ai quitté mes fonctions, mais j'ai été pendant 7 ans programmateur pour un festival de films fantastiques. Donc, j'avais vraiment ma place là-bas. C'était super, mais mon travail de cinéaste a pris le dessus, effectivement. Là. Attendez, là, il va falloir que je fouille un petit peu là, quand même. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Là. Ah, ben ça, j'adore. Bestiaire de Denis Côté, là, ça, c'est une curiosité québécoise. Un documentaire contemplatif au Parc Safari au Québec. Donc, un genre de zoo, mais où on peut visiter avec nos voitures. Là, on rentre dans le parc. Mais Denis a filmé, bon, je dis Denis comme si c'était mon ami, mais Denis Côté a filmé ça sans entrevue, sans dialogue. Donc, c'est vraiment on voit les animaux, qu'est-ce qu'ils vivent à travers l'année. On voit un taxidermiste à l'œuvre. On voit pendant l'hiver qu'est-ce qu'ils font les animaux. Donc, c'est vraiment un film fascinant qui est très, très, très unique.
Peut-être en dehors du rayon québécois.
Oui, c'est ça. Je vais essayer de sortir. Là, je suis même pas rentré. Hein, je viens juste de rentrer ici. OK, là, il y a la sélection qui est par ciné. Ah, ça, c'est vraiment intéressant.
Là, je vois déjà du Wes Craven. Donc là, on se rapproche du film d'horreur, ce qui est un peu ton truc.
Moi, en fait, du John Carpenter. Si on trouve Carpenter, là, je peux rentrer très deep là, dans... ça doit être... non, c'est... C'est pas loin ici. Ben...
Si, il est là.
John Carpenter, ouais. John Carpenter, c'est le maître. Il était toujours un peu déphasé dans ses sorties. Tu sais, je pense qu'un des plus grands films d'horreur, un des plus grands films de genre de tous les temps, c'est The Thing. L'effroyable chose, je sais pas c'est quoi la traduction en France, nous au Québec, c'était ça, l'effroyable chose.
Nous, c'était la chose, tout simplement.
La chose, tout court, ouais, OK, c'est ça. On a toujours des titres un peu weird. Mais oui, ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre du body horror, mais aussi comme un... Il y a comme un mystère, en fait, c'est qui est possédé par The Thing. C'est un chef-d'œuvre qui, à l'époque, n'avait pas eu ses lettres de noblesse, mais qui, avec le temps, a vraiment gagné. Incroyable. Mais cette section-là, tous les réalisateurs... Oh, j'adore tout ce que je vois. J'ai vu, en plus, Joe Dante ici, qui est un autre de mes idoles, que j'ai rencontré 2 fois, dont l'année dernière, je suis allé présenter mon film Time Man, qui est au festival cette année. Je suis allé le présenter au Texas, puis je l'ai recroisé puis pour la deuxième fois, puis j'ai encore dit à quel point son cinéma était important dans ma vie. Gremlins est classique, mais je vous dirais même Gremlins 2, qui est souvent un peu mis de côté. Gremlins est peut-être un meilleur film, entre guillemets, radiophonique, mais Gremlins 2, c'est un cartoon à la Looney Tunes complètement éclaté. C'est Joe Dante qui a eu le budget infini de faire ce qu'il voulait et il s'est payé un trip. Ça n'a pas plu à tout le monde à l'époque, mais moi, je vous dirais que c'est un film déjanté. Là. C'est vraiment, vraiment un plaisir de revoir ce film-là.
Voilà, bah sachez qu'il est donc alloué à la nouvelle dimension. Merci pour cette petite sélection impromptue.
Ça fait plaisir, j'ai pas eu le temps de chercher beaucoup, mais bon.
T'es tombé sur les bonnes choses, ouais. Finalement. Et du coup, tu l'as évoqué, il y a ton film, donc c'est ton dernier film, Time Man, qui sera projeté au festival. Donc ça sera samedi à la séance de minuit à 23h. Est-ce que tu peux nous pitcher ce film?
Oui.
Comment vous dites pitcher d'ailleurs au Québec?
Ouais, pitcher, ça va, oui, ouais, on a ça aussi. C'est, en fait, c'est un film de super-héros qui est un série B assumé. Donc, c'est un peu trash, qu'on peut dire. C'est gore, il y a du sexe, il y a du sang, il y a de la violence, des scènes d'action, de l'humour qui est politically incorrect. Il y a un squelette qui joue de la guitare. Et tout ça est doublé en français international. Donc, il y a un doublage comme sur les VHS des années 80. Avec de la musique jazz qui a été improvisée sur l'image. Donc, c'est comme c'est vraiment une curiosité, ce film-là. C'est le genre de film qui, ça passe ou ça casse, comme on dit. Les gens qui aiment, ils embarquent à fond. Il y a des gens qui comprennent pas du tout la proposition, mais les amateurs de films de genre, je pense qu'ils peuvent s'y retrouver. En gros, c'est l'histoire d'un justicier avec des cravates agrafées au visage qui se joint à une policière pour essayer de... Elle essaie de retrouver sa sœur qui a été kidnappée et lui essaie de se venger. Là, il arrête pas de dire justice et vengeance. Il essaie de se venger contre un genre de... magna de l'immobilier, une espèce de... Moi, je dis souvent que c'est un genre de Donald Trump on crack, mais bon, Donald Trump est lui-même on crack probablement. Mais donc, ce justicier-là se bat contre cet homme-là qui essaie de devenir maire de la ville. Puis tout ça est dans une cité qui a été construite avec une maquette en carton. Là. Donc, c'est vraiment un gros, gros délire fait avec les moyens du bord. C'est un très, 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 très petit budget. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, on dit au Québec, beaucoup de jus de bras, donc beaucoup de
jus de coude.
Oui, jus de coude, c'est ça. Enfin, beaucoup de volonté de l'équipe. Voilà.
Tu peux nous dire le budget, si ce n'est pas indiscret, pour qu'on se fasse une idée, justement?
Ben, c'est, en euros, je pense que ça doit être 70 000 euros environ. Puis c'est, tout le monde était payé aussi. C'est pas juste 70 000 à l'écran. Donc, c'est vraiment... sauf moi, je n'étais pas payé parce que je faisais le film. Mais j'ai un petit budget d'une télé... c'est presque une télé communautaire au Québec. C'est une télé qui spécialise en cinéma de genre, mais qui est télévision câblée qu'il faut avoir avec un abonnement. Puis j'ai réussi à convaincre le producteur et le propriétaire de la chaîne de me donner un petit budget. On a tourné ça dans ses studios à lui avec deux caméras, vraiment comme de la série télé, avec très peu de prises à chaque... on tournait du, pour ceux qui savent, 15 pages par jour. Donc souvent au cinéma, on est plus en 5 pages de scénario par jour. Quand on est chanceux, moi j'étais à 15 pages par jour, donc c'était un plateau qui allait très 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 vite avec beaucoup de préparation, mais beaucoup de passion aussi de toute mon équipe et mes comédiens.
Et donc là, on voit que le sujet du film dénote un peu avec le reste de la programmation, parce que cette année, il y a eu beaucoup de films au Festival Vue du Québec qui traitaient de sujets assez profonds, soit des histoires familiales, de mémoire, des drames un peu sociaux. Je me demandais, est-ce que le cinéma de genre peut aussi s'emparer de sujets comme ça sérieux, entre guillemets, on va dire, ou est-ce que les scénarios doivent toujours rester un peu déjantés, loufoques?
Non, mais je pense qu'avec le temps, tu sais, comme cinéaste, on évolue. Effectivement, mon film, on peut le prendre au premier degré, puis c'est juste une grosse aventure déjantée. Mais aussi, on peut le prendre aussi sur un deuxième degré, parce qu'on, tu sais, on a quand même des choses à dire avec quand on fait du cinéma. On a quand même un parti pris. Il y a un gros, parti pris politique dans le film aussi. Là, on parle justement, il y a une parodie des élections américaines au travers. Juste les personnages aussi, qu'est-ce qu'ils vivent. Il y a quand même, j'espère qu'il y a quand même une certaine émotion, une certaine volonté de mes personnages à travers ça. Mais effectivement, je pense que c'est bon d'avoir les deux degrés dans du cinéma de genre. Le cinéma de genre a toujours été politique dans un sens. Si on pense juste à La nuit des morts vivants, Night of the Living Dead, film des années 60 de George Romero, 100% politique, mais il y a toujours une dimension de plus. C'est sûr que quand je faisais des films à 21 ans, j'avais peut-être pas ça dans la tête, mais maintenant, aujourd'hui, c'est important pour moi aussi de parler de sujets à travers ça. Mais je pense que c'est un petit bonbon dans un festival aussi. C'est, effectivement, quand on regarde des films un peu plus difficiles, un peu plus lourds à travers la journée, j'adore ça aussi. Là, c'est du cinéma que je consomme énormément. Mais d'avoir, en fin de soirée, de finir ça avec une bonne bière en regardant un film un peu étrange, de sortir de la salle, faire « qu'est-ce que je viens de voir? » C'est un peu ça, moi, qui me passionne, là, d'avoir la communion le public.
On sera au rendez-vous samedi à 23h pour voir Time Man. Merci beaucoup Rémi Fréchette.
Un grand plaisir, merci.
Merci Rémi Fréchette, merci à toutes et à tous pour votre écoute. C'est déjà la fin de cette émission et donc aussi la fin de la couverture de Vue du Québec sur les ondes de Radio Bartas. On était ravis de pouvoir autant en parler cette semaine. Et voilà, le festival évidemment se poursuit lui jusqu'à dimanche avec encore plein de projections, de rencontres et même des ateliers. Tout est dans le programme que vous pouvez retrouver un peu partout à Florac. N'hésitez pas à y aller, à y retourner, à y retourner et à rencontrer tous les invités qui sont présents, tous les Québécois qui sont présents en ville en ce moment. Voilà, et on se quitte avec The Gremlin Rag, le thème principal de la BO du film Gremlins, si cher à Rémi Fréchette. Bonne fin de journée à toutes et à tous sur Radio Bartas. Salut!